Europe 1. Sur Europe 1,
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, quel bonheur de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Historiquement Vôtre, l'émission qui vous parle d'histoire sans s'écouter parler. Chaque jour, trois portraits de trois personnages très différents, mais qui avaient un point commun. Deux portraits sont 100% vrais. Hein. Le troisième, les disons un peu moins, à 99%. Il est signé de mon fidèle acolyte, mon petit trublion helvète. Bonjour Mathieu Noël.
Mais votre petit trublion helvète vous salue, mon gros luxembourgeois. Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Vous trouvez que j'ai grossi ?
Pas du tout, vous êtes fin comme un roseau, non. Stéphane. Je suis mauvais esprit. Aujourd'hui, le point commun de nos trois personnages, c'est que la Tour Eiffel a changé leur vie. Ah, la Tour Eiffel, s'il est un monument qui a fait tourner les têtes, c'est bien elle. A commencer par celle de Stéphane, qui depuis longtemps, fasciné par la géométrie audacieuse de cet admirable symbole phallique, avait voulu s'en faire construire une réplique en plus grand dans son jardin du 9e arrondissement.
Elle est plus grande, effectivement, mais est-ce qu'on peut en mettre deux ?
Non ! Hélas, l'architecte des monuments nationaux s'y était opposé, malgré le généreux Potvin qui lui proposait. Ah, quelle histoire, vous me la racontez.
Bon, écoutez, plutôt que de raconter n'importe quoi, Mathieu, je vous propose plutôt de découvrir nos personnages du jour dont la Tour Eiffel a tout simplement changer la vie. A commencer par l'ingénieux ingénieur qui l'a imaginé et lui a donné son nom, Gustave Eiffel. Il a réalisé l'exploit de faire naître à cette époque le monument le plus haut qui soit. Un monument éphémère construit pour l'exposition universelle de 1889, mais qui est aujourd'hui toujours là. Lui, en revanche, n'est plus là. Franz Reichelt, un tailleur devenu inventeur, oui. Qui a imaginé un costume parachute avec lequel il a choisi de s'élancer du premier étage de la Tour Eiffel. Il aurait dû écouter ceux qui lui déconseillaient de sauter. Quant à vous, Mathieu, vous évoquerez une femme dont la Tour Eiffel a vraiment changé la vie aussi.
Oui, Stéphane, mais d'une manière assez inattendue, puisque contrairement à ces nombreux touristes qui ont fait leur demande en mariage sur la Tour Eiffel ou qui se sont mariés dans la Tour Eiffel, Erika, elle, s'est mariée à la Tour Eiffel. Erika n'est pas folle, elle est objectophile, c'est-à-dire qu'elle ressent des choses pour les objets. Nous essaierons de la comprendre sans la juger.
Infirmière, s'il vous plaît.
Non, sans la juger, Stéphane, sans la juger.
Et avec nous, comme chaque jour, elle nous entraîne dans l'intimité des grands de ce monde. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach.
Toujours la même émotion, Clémentine, de vous accueillir dans notre émission.
Comment voulez-vous que je déploie sérieusement mon propos avec une introduction pareille?
Mais personne ne vous attend.
J'ai du mal et pourtant je parle. Pourtant, je parle d'un sujet extrêmement triste. Parce que vous êtes sur un monument de fer et de boulons. Et moi, je vous parle d'un monument de l'histoire des États-Unis fait de chair et d'os. Il est mort un 15 avril, le président Lincoln. Vous savez, quand on visite la Maison Blanche, on vous montre ce qui était son bureau, une chambre Lincoln qui était son bureau. Et c'est le seul président des États-Unis dont on voit aujourd'hui encore le fantôme à la Maison Blanche. Roosevelt, Eisenhower, et même Eleanor Roosevelt l'ont vu guettant à la fenêtre un hypothétique champ de bataille. Donc,
Il s'est fait tirer dessus.
Il s'est fait tirer dessus et c'est sans doute pour ça. C'est comme si c'est le premier président des États-Unis assassiné. On voit son fantôme qui erre. Mais il y a tout un culte autour des objets liés à ce drame et c'est de cela dont je vais vous parler.
Avec nous, Olivier Pouls, qui nous entraîne dans un dessert. Un monument qui a un nom de château.
Fontainebleau. Vous connaissez cette petite spécialité fromagère très aérienne?
Oui, il y a de la crème de marron. C'est pas assez sucré.
Non, il n'y a pas de marron.
C'est un peu sucré. C'est du fromage fouetté, mais.
Normalement, il n'y a pas forcément
pas sucré,
de sucre. Vous pouvez
Stéphane,
le sucrer si vous voulez. Mais je vous raconterai d'abord de quoi il est composé. Je vous expliquerai même que vous pouvez le faire chez vous. Oui, exactement.
En fouettant le.
Et puis je vous dirai pourquoi on l'appelle le Fontainebleau. Et est-il né à Fontainebleau d'ailleurs?
Oh non,
nous serons
tout à l'heure.
Ça serait incroyable.
Qui serait né à Saint-Cloud, parce que ça n'aurait pas de sens.
Ça n'aurait pas de sens.
Le Saint-Cloud.
Voilà, la maison, c'est ridicule.
À vos côtés, Olivier, David Castello-Lopez, un garçon qui, à chacune de ses chroniques, fait beaucoup pour l'amitié franco-allemande.
Sur les 70 premiers aviateurs allemands qui ont sauté en parachute de leur avion pour sauver leur peau pendant la guerre, il y en a quand même un tiers qui sont morts.
Alors aujourd'hui, aujourd'hui, mon cher David, la suite d'une chronique culte, on peut le dire, sur le Viandox.
C'est tout à fait. C'est l'épisode 2. L'épisode 1, hier, c'était les origines du Viandox. D'ailleurs, j'invite les auditeurs à écouter en podcast peut-être l'épisode 1 pour profiter de l'épisode 2, peut-être même pendant cette émission. Hein,
pendant la chronique de Clémentine, par exemple. Il y a une concurrence entre les chroniqueurs.
Et donc, tout à l'heure, je vous ferai donc l'épisode 2 sur le futur du Viandox.
Le retour du Viandox.
Parce que d'après vous, le Viandox a un futur.
Vous nous en préparez un petit, là ?
Peut-être, mais on va voir ce qu'on peut faire.
Enfin, les amis, puisque humilier son prochain fait partie des petits plaisirs de ce bas monde, nous jouerons à Burn to be Alive, l'épreuve que Stéphane redoute, mais que la France attend chaque jour vers 5h-10. Mais tout de suite, partons à la rencontre de notre premier personnage dont la vie a été bouleversée par la Tour Eiffel, et c'est assez logique finalement. Stéphane Bern nous raconte Gustave Eiffel.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Nous sommes en 1889. Les plus grandes de ce monde se pressent sur le Champ de Mars à Paris pour découvrir la tour de Monsieur Eiffel. À l'époque, la construction la plus élevée que des hommes n'aient jamais bâtie, 312 mètres de haut. Le prince de Galles, le fils de la reine Victoria, la reine d'Espagne, les rois de Grèce, de Suède, de Belgique, le tsar de Russie, Alexandre III, pas un monarque ne manque à l'appel pour saluer cet exploit. Avec cette tour de fer, Gustave Eiffel redonne à la France sa place de leader en matière de conquête industrielle, dépassant sa grande rivale, l'Angleterre. Pourtant, ce bourguignon s'est destiné pendant longtemps à embrasser une carrière de chimiste. C'est à Dijon que naît Gustave Bönninghausen, dit Eiffel, en 1832. Son père, officier dans l'armée napoléonienne, intègre très vite l'entreprise de négoce de houille créée par sa femme. En effet, dans la famille, c'est elle qui est la bosse du commerce. Partie de rien, la mère de Gustave a eu le nez fin. Le 19e siècle verra le sacre de l'industrie et le charbon sera le principal combustible. Très accaparé par leur travail, le couple préfère placer Gustave chez sa grand-mère. Une femme acariâtre qui n'hésite pas à le battre s'il se comporte mal. Revenu au domicile familial après plusieurs années morose, dirons-nous, il obtient avec les honneurs ses deux baccalauréats en sciences et en lettres. À 18 ans, il quitte sa province bien décidé à empoigner sa vie, direction Paris. Après 2 ans de classe préparatoire, faute d'être reçu à Polytechnique, il intègre la plus récente mais non moins prestigieuse école centrale. Sa mère, qui croit beaucoup à la réussite de son fils, lui loue une chambre dans le quartier du Marais. Elle lui envoie régulièrement de l'argent, car en montant à la capitale, Gustave goûte au plaisir d'une ville en pleine effervescence. Le dimanche, avec ses amis, il assiste à des spectacles sur le Champ de Mars. Il adore se déguiser lors de bals costumés, découvrir des pièces à l'opéra. Semaine après semaine, il s'enivre d'alcool, de cigares et de femmes. Il faut dire que l'étudiant est bel homme. Malgré sa petite taille, 1m65, il possède un physique de sportif, escrime, boxe, natation, avec ses muscles saillants, son talent pour la danse et son bagout bourguignon. Il séduit les Parisiennes. Et puis Gustave ne s'en fait pas trop pour son avenir, tout est déjà prévu. Et une fois son diplôme en poche, il intégrera l'entreprise de chimie de son oncle. Mais une dispute de famille l'oblige à repenser son avenir. Gustave est perdu. L'étudiant va trouver son salut en 1855 lors de l'exposition universelle, une première en France. L'occasion pour les visiteurs de contempler des inventions insolites qui bouleverseront leur quotidien dans les années à venir. Gustave, qui s'est fait payer un pass illimité par sa mère, y déambule du matin au soir. Il est fasciné par ce qu'il y découvre. Des locomobiles avec moteur intégré, l'ancêtre de la voiture, un percolateur à café capable de produire 2000 tasses à l'heure, une machine à laver le linge, à pétrir le pain, une machine à coudre, une poupée parlante. Un monde nouveau et excitant s'ouvre devant lui. L'étudiant consigne tout sur un carnet de notes, trace des schémas, dessine des croquis. Un élément le subjugue par-dessus tout, l'immense verrière du palais de l'industrie. Elle donne une telle légèreté à l'édifice. Il regrette simplement que tout le bâtiment ne soit pas fait de métal et de verre au lieu de reposer sur ses imposants murs en pierre. Mais désormais, il le sait. Il n'officiera pas dans la chimie, mais dans la métallurgie. Il veut révolutionner le monde de la construction. Pour cela, il peut compter sur celle qu'il a attendue toute sa vie, sa femme. Marie Godelet est douce, folle amoureuse de lui, et l'encourage sans cesse dans sa carrière. Elle donne naissance à 5 enfants, 3 filles et 2 fils. Gustave, après s'être formé dans différentes entreprises à la construction de voies ferrées et de ponts, décide qu'il est grand temps de plonger dans le grand bain. En 1866, il a 32 ans et crée sa propre compagnie. Ses ateliers sont situés à Levallois-Perret. Pendant 2 ans, terrifié à l'idée de faire faillite comme certains de ses prédécesseurs, il accepte tous les contrats possibles. Dans le milieu, on le surnommait même « le lièvre », tant il court d'un chantier à un autre. Mais ses efforts finissent par payer. Chili, Bolivie, Pérou, son savoir-faire, sa rapidité, ses tarifs compétitifs séduisent de plus en plus. La sublime façade en verrière de la gare de Budapest, le viaduc de Porto, long de 353 mètres, celui de Garabit, en forme parabolique et haut de 122 mètres, l'ossature de la statue de la liberté, Gustave Eiffel est désormais l'ingénieur incontournable de cette seconde moitié du 19e siècle. Tout lui sourit, mais une tragédie vient balayer son existence parfaite. Sa femme décède à 32 ans de ce qu'on appelle à l'époque la phtisie, connue aujourd'hui comme la tuberculose pulmonaire. Il ne se remariera jamais. Sa fille aînée Claire s'occupe alors de ses 4 frères et sœurs. Elle veut laisser son père développer toujours plus son entreprise et surtout le projet qui le rendra mondialement célèbre et qui va changer sa vie à tout jamais, la Tour Eiffel. En prévision de l'exposition universelle de 1889, Gustave Eiffel réfléchit en effet à un projet grandiose à présenter au monde. Il a missionné 2 de ses collaborateurs, Émile Nouguier et Maurice Koechlin, de concevoir une construction qui impressionnerait les autres nations. Les deux lui proposent tout d'abord une tour métallique, haute de 300 mètres. Elle n'aurait pas vraiment d'utilité si ce n'est d'être la plus haute jamais édifiée. Gustave Eiffel leur demande de revoir leur copie et suggère l'aide de l'architecte Stéphane Sauvestre. Cette fois, les plans lui plaisent. La tour reposera sur 4 piliers dans l'axe des 4 points cardinaux. Elle aura 3 étages et permettra à plus de 1000 visiteurs d'admirer la beauté de Paris. Mais sa candidature doit d'abord remporter le concours lancé par le gouvernement. On dénombre pas moins de 107 projets, dont certains très originaux, voire complètement farfelus. L'un prévoit une tour à rosoir pour rafraîchir Paris pendant les grosses chaleurs.
C'est génial, ça serait prévu le réchauffement
climatique. Oui, ça serait très utile aujourd'hui. Un autre souhaite commémorer le centenaire de la Révolution française en installant une guillotine géante de 300 mètres de haut.
Ça aurait du goût.
Il savait comment me faire plaisir. Finalement, Gustave Eiffel remporte les suffrages. 2 ans, 2 mois et 5 jours. C'est le temps qu'il faut pour construire la tour la plus haute du monde. L'organisation de Gustave Eiffel est minutieusement calculée. Les pièces sont fabriquées dans ses ateliers de Levallois-Perret par des ouvriers appelés les gars du plancher des vaches. Elles sont ensuite assemblées sur le champ de Mars par 132 hommes, surnommés les ramoneurs. Payés 80 centimes de l'heure, l'équivalent de 2 euros, ils travaillent 9 heures en hiver et 12 heures en été. En septembre 1888, ils se mettent en grève pour obtenir une augmentation de salaire au vu des dangers encourus chaque jour. Ils obtiennent gain de cause. Pendant les travaux, les curieux peuvent observer le chantier grâce à une lunette astronomique installée sur le pont d'Iéna. Dans les derniers mois, la cadence s'accélère. La tour grandit de 1 mètre par jour. Finalement, le 31 mars 1889, le monument est officiellement terminé. La tour, haute de 312 mètres, est une prouesse architecturale. Gustave Eiffel a réussi son pari. Ouverte au public le 15 mai, la première semaine de l'exposition, 30 000 visiteurs se pressent pour découvrir sa dame de fer. Il est même décoré de la Légion d'honneur au sommet, avant d'être empêtré avec de nombreux autres dans le célèbre scandale du canal de Panama auquel son nom pour avoir construit des écluses est associé. Un combat judiciaire dont il sort finalement blanchi. Reste ensuite à Eiffel un combat à mener. Il œuvrera pour que sa tour ne soit jamais détruite.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de Gustave Eiffel et de sa tour, nous sommes avec la journaliste et écrivaine Christine Kerdelan qui lui consacre son dernier ouvrage. Bonjour Christine.
Bonjour.
Oui Christine Kerdelan, vous publiez La vraie vie de Gustave Eiffel aux éditions Robert Laffont. On n'imagine pas Paris aujourd'hui sans la tour Eiffel et pourtant vous affirmez à la toute fin de votre livre que si elle avait été voulue définitive, elle n'aurait sans doute jamais existé.
Oui, très probablement parce que je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce qu'on a appelé la pétition des artistes.
Bien sûr. Alors des grands noms. Hein,
voilà,
des grands.
Il y avait Gounod, il y avait Garnier, il y avait Guy de Maupassant, il y avait tout ce que le Paris côté de Beau Monde. Et ces gens ont fait une pétition le 14 février 1887, sachant que les premiers coups de pioche de la tour Eiffel avaient été donnés fin janvier, ils ont fait une pétition pour dire que cette tour Eiffel allait déshonorer Paris, que même que la puissante Amérique, la commerciale Amérique n'en aurait pas voulu, que cette horreur était vertigineusement ridicule, qu'elle allait profaner Paris, que c'était une cheminée, etc., une cheminée noire, d'usine, monstrueuse, qu'elle écrasait surtout Notre-Dame et le Louvre.
Et ce qui est intéressant, pardon, c'est qu'il ne connaissait pas le design, si on pourrait dire aujourd'hui, de cette tour. Il critiquait avant d'avoir vu naître.
Exactement,
en fait.
Il ne l'avait jamais vue. Mais il ne demandait pas sa destruction immédiate, enfin les fondations qui étaient déjà faites, parce qu'il pensait qu'elle était de toute façon éphémère, qu'elle allait durer alors 6 mois minimum, c'était 20 ans parce que Gustave Eiffel, pour pouvoir rentrer dans ses fonds, puisque ça allait coûter 8 millions de francs, allait avoir une concession avec la ville de Paris pour qu'elle dure 20 ans, mais même 20 ans c'était éphémère. Et comme ce n'était pas donc quelque chose qui allait défigurer Paris à jamais, il ne demandait pas ses destructions immédiates. Il demandait qu'elle ne dure pas éternellement parce que c'était très laid selon eux.
Alors, vous racontez dans ces presque 500 pages la vie de son constructeur et son combat donc pour la faire exister. Qu'est-ce qui force l'admiration chez Gustave Eiffel ? Son acharnement, sa créativité, son envie d'aller toujours plus haut et plus loin ?
Alors, sur la tour Eiffel, effectivement, c'est son acharnement, sa créativité. On l'a dit, ce sont ses adjoints qui ont un peu inventé l'idée du pylône et ensuite l'architecte qui a inventé la forme de la tour Eiffel. Mais sans lui, ça n'aurait jamais eu lieu. D'abord, il a misé toute sa fortune sur cette tour. Il a inventé énormément d'éléments techniques qui ont permis de la réaliser. La tour Eiffel, c'était une tour en kit. Toutes les pièces étaient fabriquées à Levallois dans ses ateliers. Elles arrivaient par voiture hippomobile jusqu'au Champ de Mars. Elles étaient numérotées et il suffisait de les monter un peu comme un mécano avec des riveurs, des rifteurs qui chauffaient des rivets à blanc et qui assemblaient toutes ces pièces. Mais toute sa vie, Gustave Eiffel a été un innovateur, un inventeur. Il a déposé beaucoup de brevets. Il faut savoir qu'entre 70 et 90 ans, donc à la toute fin de sa vie, il était un pionnier de l'aéronautique et un pionnier de la météorologie. Il a reçu la médaille Langlais, qui est une espèce de prix Nobel de l'aérodynamisme, décerné par une fondation américaine, pour ses apports à l'aérodynamisme sur les avions. Sans lui, aujourd'hui, les avions n'auraient pas les ailes basses. Elles avaient, vous souvenez que les premiers avions avaient des ailes très hautes. C'est grâce à Gustave Eiffel, à sa soufflerie, et au fait qu'il a démontré que l'aérodynamisme était meilleur avec des ailes plus basses, que tous les avions, à partir de là, ont commencé à avoir des ailes basses.
Ça, c'est un aspect plus méconnu de sa personnalité. Quand on regarde son parcours de près, Christine, comme vous l'avez fait, c'est étonnant de voir à quel point Eiffel s'est construit par et pour les femmes. Sa mère, sa femme, ses filles. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que sans elle et la disparition rapprochée de sa mère et de son épouse, eh bien, au fond, la tour Eiffel n'aurait jamais vu le jour ?
Alors, non, on ne peut pas dire que c'est la disparition de sa femme et de sa mère, effectivement, très rapprochées en 1877 et 1878, qui lui ont donné l'idée de la tour Eiffel, puisque c'est arrivé 6 ans après. En revanche, il ne se serait pas construit effectivement sans les femmes, parce que d'abord c'est sa mère qui était chef d'entreprise, Stéphane vous l'avez rappelé tout à l'heure, elle était chef d'entreprise, elle faisait tourner les docks à Dijon, elle était passée du marchande de bois au commerce de la houille, parce qu'elle avait senti que cette révolution industrielle qui arrivait, on allait avoir besoin de beaucoup de charbon, beaucoup de houille pour faire tourner les usines, et donc il était fasciné de voir que sa mère pouvait plier le monde et les éléments à sa volonté. Ensuite, sa femme, vous l'avez rappelé aussi, Marguerite, lui a apporté tout l'amour dont il avait manqué pendant son enfance, un amour inconditionnel qui l'a beaucoup aidé à prendre tous les risques, à risquer la faillite, etc., parce qu'il savait qu'elle serait toujours derrière lui. Et puis après, il y a eu sa fille, Claire, à qui il a voué un culte pendant toute sa vie, après la mort de sa femme, et qui s'est occupée à la fois de ses enfants, mais qui a été même son épouse de remplacement, si on veut. Elle organisait de grands dîners, elle était sa secrétaire en même temps. Et donc, Gustave Eiffel, doit beaucoup aux femmes.
Et la tour Eiffel, il y a cette vision un peu romantique qu'on peut avoir. Elle a la forme d'un A, un A comme Adrienne, un A comme Alice, comme s'il jetait à la face du monde, écrivez-vous, sur 300 mètres de hauteur, ses amours passés. C'est une lecture romantique ou c'est la réalité, ça ?
Alors, c'est pas si romantique que ça. Alors, c'est vrai, je me suis mis dans sa tête pour imaginer qu'il voyait un A dans la tour Eiffel. J'ai pas été la seule à le faire, d'ailleurs. Mais il faut quand même dire que Adrienne et Alice sont des faits, enfin, leur existence et l'amour qu'il a eu pour elle, c'est avéré. Alice, il en parle dans sa biographie industrielle. Il a écrit à 90 ans 4 volumes, ce qu'on appelle une biographie industrielle, dans lequel il raconte aussi un peu de son enfance. Et il raconte que quand il avait 9 ans, en revenant de l'école, il prenait chez sa grand-mère, donc, le portrait d'Alice, sa cousine, qui était accroché au mur, un portrait à la mine de plomb, et qui l'embrassait, et qu'à force de l'embrasser, la mine de plomb s'était un peu décolorée. Quant à Adrienne, elle a été sa fiancée, officiellement, sont ses parents, les parents d'Adrienne, qui ont refusé finalement qu'il l'épouse, parce qu'ils avaient pris des renseignements via leur notaire, et que la famille Eiffel, c'était un peu des parvenus, des gens enrichis trop vite, puisque sa mère avait fait fortune à partir vraiment de zéro. Et donc, ils ont préféré qu'il ne se marie pas avec Adrienne, mais on sait qu'il a retrouvé Adrienne ensuite, puisque son fils Édouard s'est marié avec la nièce et filleule d'Adrienne à Bordeaux. Donc, c'est pas complètement inventé. Je vais plus loin en imaginant un peu ce qu'il peut penser et le fait qu'il a vu un A, mais c'est pas totalement inventé.
Revenons, Christine, à cette candidature grandiose pour l'exposition universelle de 1889. Ce qu'il faut dire, peut-être, c'est que Eiffel n'avait pas seulement l'ambition d'édifier la tour la plus élevée jamais construite, elle avait une utilité, une vocation scientifique dans l'esprit d'Eiffel.
Alors, il avait bien compris que s'il voulait que sa tour dure éternellement, il fallait qu'elle soit d'une utilité certaine. Et donc, il avait annoncé dès le départ qu'en haut de la tour, on pourrait faire des essais justement sur l'aérodynamisme, à faire tomber des objets, raccrocher sur des câbles et voir à quelle vitesse, en fonction de leur forme, ils pouvaient descendre. Il voulait aussi faire des études de météorologie. Il faut savoir que Gustave Eiffel a été le premier à sortir des atlas de météorologie. Il était un visionnaire aussi en ce sens. Quand on lui disait « Mais à quoi ça va servir de savoir la météo demain ?» À part pour les agriculteurs, il disait « Mais vous savez, un jour, les gens, ils se poseront la question demain matin, comment je vais m'habiller? Est-ce que je dois prendre un parapluie ?» etc. Alors que c'était quelque chose d'invraisemblable à l'époque. Et donc, je disais météorologie, aérologie, puisqu'à l'époque, ça ne s'appelait pas aérodynamisme, mais aussi physiologie, c'est-à-dire qu'il voulait faire des expériences en hématologie, par exemple, sur la santé des gens, leur forme physique, lorsqu'ils étaient à 300 mètres du sol, chose qu'on ne pouvait faire que quand on allait à la montagne, mais en ville, ça n'existait pas, puisque la Tour Eiffel était le bâtiment le plus haut jamais construit par l'homme.
Et ensuite, il n'avait pas imaginé que ce pourquoi elle allait être gardée, c'est-à-dire la radio.
Effectivement, la TSF.
C'est la TSF qui a sauvé au moment de la guerre de 14.
Mais parce qu'il l'a senti. Il l'a senti dès 1898, il a commencé à faire des expériences de radiotransmission de la Tour Eiffel jusqu'au Panthéon avec des savants de l'époque. Et ensuite, il a mécéné Gustave Ferrier, qui était un jeune militaire, un jeune capitaine, à qui l'armée avait demandé de travailler sur les transmissions, les ondes radio, les ondes hertziennes. Et donc, il l'a mécéné, il l'a aidé, etc. Et la Tour Eiffel a ensuite été très utile. Pendant la guerre de 14, elle a intercepté des messages qui ont permis de déclencher finalement l'envoi des taxis de la Marne, parce qu'on savait que les Allemands étaient bloqués à un endroit donné et on pouvait les prendre à ce moment-là. Ça a changé le cours de la guerre. La Tour Eiffel a changé le cours de la guerre. Elle a aussi permis l'arrestation de Matahari. Là encore, un message intercepté entre un Français et un Allemand. Et donc, effectivement, la TSF...
Elle a trouvé son utilité. Une chose, vous rapportez que Georges Clemenceau a déclaré textuellement « Le seul motif qu'on fait valoir en faveur de la tour, c'est que ce sera une chose extraordinaire qui sera peut-être absurde, peut-être laide, mais qui attirera les étrangers. » Au fond, il avait raison.
Mais effectivement, il y a 7 millions de personnes qui, hors Covid, qui visitent la Tour Eiffel. À l'époque de Gustave, donc en 1889, il y a eu 2 millions de personnes lors de la première exposition universelle dans laquelle elle figurait. Et en 1900, pour une autre exposition universelle française, il n'y a plus que 1 million. Donc elle est tombée un peu en disgrâce. Et puis, après-guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, les touristes ont commencé à arriver de plus en plus nombreux vers la Tour Eiffel.
On en a rapidement parlé. Il y avait plus d'une centaine de projets en concurrence à l'époque. La Tour de Bois, proposée par les Belges. La Tour du Soleil, de Jules Bourdet. Vous êtes tombé sur des propositions complètement insolites en faisant vos recherches.
Oui, celle que Stéphane mentionnait tout à l'heure, la tour arrosoir ou la tour guillotine, il ne faut pas oublier qu'en 1889, c'était
une blague.
Voilà, mais on voulait fêter. Fêter le 1789.
Oui.
Et ce qui est incroyable, c'est que tous les rois, les chats d'Iran, etc., sont tous venus monter sur la tour Eiffel alors qu'elle était là quand même pour raconter quelque chose qui n'était pas très bon pour eux.
Mais si Eiffel a gagné, que sa tour éphémère est devenue définitive, si je puis dire, lui est tombé de très haut en étant empêtré dans ce scandale de Panama. Est-ce que pour lui, la chute a été dure?
Ah oui, c'est vraiment le Capitole, la Roche-Tarpeyenne, pour Gustave Eiffel. Il s'est retrouvé en prison en 1893, pendant une semaine, même s'il a été ensuite blanchi, mais il a vécu une semaine en prison, parce qu'effectivement, il avait été un des fournisseurs du canal de Panama, fournisseur très bien payé, effectivement, mais fournisseur seulement. Et beaucoup de petits porteurs, tous les petits porteurs ont perdu leur mise sur le canal de Panama, et certains ont été ruinés, et donc ils n'ont jamais pardonné, c'était un peu des gilets jaunes de l'époque, ils n'ont jamais pardonné à Gustave Eiffel d'être devenu riche. alors qu'il l'avait sans doute mérité. Il vu ses innovations, vu son courage, vu les risques qu'il avait pris. Mais ça ne lui a jamais été pardonné. Et ce qui a été terrible pour lui, c'est que il a mis des années et des années à s'en remettre. Il raconte qu'il se promenait sur son bateau en Suisse, sur le lac Léman, et qu'il y a des enfants sur la berge qui, en le voyant passer, criaient « Panama, Panama !» Donc il était même les enfants, quoi. Il était poursuivi. Et si aujourd'hui, je trouve que c'est un personnage méconnu, si les biographies qui ont été faites au début du XXe siècle, que j'ai toutes lues pour faire ce livre, n'étaient pas très sympathiques à son égard, c'est à cause de ce scandale de Panama. Il a été trop riche, trop vite, et on ne lui a jamais pardonné dans un pays comme la France, où voilà, on n'est pas aux États-Unis, c'est difficile.
Ce n'est pas la même mentalité qu'aux États-Unis. Christine Cardin, dans votre livre, il y a ces mots de Gustave Eiffel. « Je sais bien qu'elle ne restera pas éternellement la plus haute du monde », il parle évidemment de la tour, sourit l'ingénieur, « mais elle se charge peu à peu d'histoire. Bientôt, il sera inconcevable de la démolir. Ce serait comme si on démolissait le Louvre. » Il avait raison sur toute la ligne.
Il avait raison sur toute la ligne et aussi sur le fait qu'elle ne resterait pas éternellement la plus haute, hein, puisqu'en 1930, le Chrysler Building à New York a été construit. Ensuite, l'Empire State Building a doublé aussi le Chrysler.
1930, elle est restée longtemps.
Elle est restée 89 à 30, c'est-à-dire 41 ans.
Et puis maintenant, à Dubaï et à Abu Dhabi.
Voilà, maintenant, on va beaucoup plus haut.
On va à Dubaï quand même, ils sont des tours plus importants.
C'est vrai.
Mais on a moins envie d'y aller les visiter. Si je terminerai avec cette jolie citation de Roland Barthes, avec laquelle vous achevez vous-même votre livre. « Regard, objet, symbole, la tour est tout ce que l'homme met en elle, et ce tout est infini. » C'est assez juste, hein.
Oui.
Elle est devenue un emblème, elle est devenue un symbole, elle est devenue...
Oui, elle est devenue même la précurseur de l'art moderne, puisque Delaunay a peint ses premiers tableaux abstraits à partir de des représentations de la Tour Eiffel. Et d'ailleurs, Blaise Cendrars, qui venait voir Gustave Eiffel, qui devait avoir 70-75 ans, pour lui dire qu'il avait été finalement le précurseur de l'art moderne, s'est retrouvé face à un homme complètement ébahi, puisque lui, il avait des goûts très traditionnels. Il aimait la peinture académique, il aimait les orientalistes, Bougreau, etc. Et qu'on lui dise qu'il avait été un précurseur de l'art moderne, ça l'a complètement achevé.
Mais c'est vrai que la Tour Eiffel est devenue le symbole de Paris grâce à Gustave Eiffel.
Et on ne se pose plus la question de savoir si elle est belle ou pas, d'ailleurs.
Non,
elle est belle.
Enfin, elle se refait une beauté en ce moment. Elle a du mal parce que la peinture a du plomb dans l'aile, si je puis dire. Merci Christine Cardellan. Je rappelle votre livre, La vraie vie de Gustave Eiffel, qui paraît aux éditions Robert Laffont.
Merci beaucoup.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Tous les jours des 16h, Historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte l'histoire à hauteur d'homme. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, c'est bien un homme, d'un grand dont il est question, Abraham Lincoln.
Un grand. En effet, il mesurait 2m8. Vous saviez ça?
Mais pour l'époque,
2m8. On pense qu'il avait peut-être le syndrome de Marfan. Vous savez, comme Paganini, le général de Gaulle, et de qui l'a-t-on dit aussi, de Talleyrand. C'est une maladie qui provoque une sorte de développement disproportionné des membres, des mains, des bras.
Est-ce que c'est les gens qui continuent de grandir dans leur tombe? Vous connaissez ça?
Ah oui, mais ça n'a rien à voir avec le syndrome de Marfan. Non, je ne pense pas. Oui, les ongles et les cheveux continuent à pousser.
Non. Il y a des gens, y compris le plus grand homme du monde à une époque qui mesurait 2m70 de son vivant,
il a grandi dans son cercueil. J'ignorais ce détail.
Une info que je vous donne comme ça.
Revenons-en au 14 avril 1865 au théâtre Ford de Washington. C'est là que le malheureux Abraham Lincoln a été tué d'une balle dans la nuque par un sympathisant confédéré qui s'appelait John Wilkes Booth. Et il assistait à une pièce de théâtre un peu du vaudeville, un petit peu du genre d'Oscar Wilde, une pièce qui s'appelait Notre cousin américain. En fait, quelques jours plus tôt, il avait parlé de donner le droit de vote aux Noirs et ça, Booth n'a pas supporté. Il avait d'abord envisagé simplement de kidnapper Lincoln et finalement il s'est dit, bon allez, je le liquide. Cette histoire a absolument bouleversé les États-Unis et les bouleverse aujourd'hui encore au moment de l'anniversaire. Il s'est créé une sorte de culte absolument absolument incroyable à travers tout le pays, autour de tous les objets liés à cette tragédie. Et constamment, on redébat des conditions de mort de Lincoln, etc. D'ailleurs, en 2012, on a retrouvé, parmi des centaines de boîtes d'archives des services médicaux de l'armée, on a retrouvé le rapport d'un jeune médecin qui avait 23 ans, qui était diplômé de médecine depuis 6 semaines, et qui se trouvait ce soir-là au théâtre.
Ah oui ?
Et c'est lui qui a été, oui, il s'appelait Charles Hay Leal, et il a été le premier à se précipiter. Il a vu Booth tirer sur Lincoln, et il s'est précipité, il a sauté par-dessus la balustrade pour aller porter secours à Lincoln. Et ce rapport qui permet de raconter les événements, enfin de les vivre sous l'angle d'un témoin direct, eh bien on l'a retrouvé juste en 2012, c'est très très récent. Bon, alors évidemment ce jour-là, il a été évidemment rejoint immédiatement par d'autres médecins, et on a emmené la dépouille il était encore vivant à ce moment-là, le corps de Lincoln, dans une petite pension de famille exactement en face du théâtre, la pension de famille des Petersen, et là on l'a installé dans une chambre au rez-de-chaussée, une chambre qu'occupait un soldat de l'Union qui s'appelait Clark. Ce gars-là, ce jour-là, il avait dû aller manger dehors, et puis il est rentré, on lui a dit le président des États-Unis est mort dans votre chambre. Bon, toute la nuit, évidemment, les médecins ont essayé de lui sauver la vie en empêchant le sang de coaguler pour soulager la pression sur le cerveau, mais à 7h20, le 15 avril 1865, il rend le dernier soupir. Et de nos jours, cette maison Petersen est un lieu de touristique très connu et très fréquenté, très populaire à Washington. Et donc, je vous le disais, on a conservé tous les souvenirs liés à cette tragédie, mais de façon parfois un peu morbide et fétichiste, comme on le faisait au 19e. C'est-à-dire, on va garder l'oreiller taché de sang, le manteau de Madame Lincoln taché de sang, le chapeau haute forme. Enfin, on n'aurait jamais à l'idée de faire ça maintenant. Bon, alors le lit d'abord, le lit a été conservé, c'était un lit à bobine, et on a dû, il était tellement grand Lincoln qu'on ne pouvait pas l'allonger normalement comme vous et moi dans nos lits, on a dû l'allonger en travers du lit, et celui-là il a été conservé, il est à Chicago. Dans l'Indiana, on a conservé la voiture à cheval avec laquelle il était arrivé jusqu'au théâtre, la balle qui l'a tué, là au musée d'histoire de la médecine de Washington, oui, il y a la balle qui l'a tué, des fragments de son crâne, c'est quand même un peu morbide tout ça. Bon, je parlais du chapeau de forme, mais il est au Smithsonian Institute aussi à Washington. À la Bibliothèque du Congrès, son portefeuille et le contenu de son portefeuille, et ça c'est touchant parce qu'on voit la modestie de cet homme. C'est-à-dire, il y a un mouchoir, ses lunettes, un petit couteau de poche, un petit crayon pour prendre des notes, enfin rien du tout. Et puis au Ford Theater, le pistolet de Booth, le manteau porté. On a absolument tout, l'agenda de l'assassin, ses bottes, la chaise sur laquelle était assis Lincoln, la trousse médicale du médecin, vous voyez, tout ça c'est à Dearborn dans le Michigan, enfin, et aussi des choses assez glauques. Vous savez, dans cette histoire, on a arrêté 8 suspects. 7 hommes et une femme, des conspirateurs, parce qu'en fait, il y avait une vaste conspiration qui visait à assassiner le maximum d'hommes politiques influents dans l'entourage de Lincoln. Et on a conservé les clés de leurs cellules. Et puis une sorte de cagoule qui leur cachait le visage. C'est tous les conspirateurs, pendant pratiquement 2 mois, 24 heures sur 24, on leur faisait porter une cagoule intégrale. Oui, parce qu'il fallait rajouter une sorte de souffrance morale et à l'indignité de ce crime sur un président. Et ça n'est pas sans rappeler, je trouve, c'est le costume très stigmatisant et des tenues de Guantanamo. Je me demande s'il n'y a pas un peu une dimension religieuse dans tout ça. C'est, vous allez expier, vous avez tué le président. Enfin, en tout cas, il y en a 4 qui ont été exécutés, dont une femme qui s'appelait Mary Surratt, qui a été la première femme à être exécutée par le gouvernement américain. On a gardé un morceau de la potence, vous imaginez, c'est quand même d'un goût. Mais en tout cas, l'assassin de Lincoln, lui, il n'a survécu que 10 jours à sa victime, il a été tué par ses poursuivants. Mais il y a une ironie du sort incroyable dans cette histoire d'assassinat, c'est que le propre frère de l'assassin, Edwin Booth, qui était l'un des plus grands comédiens de l'époque, c'est comme si c'est un genre de Sacha Guitry, si vous voulez, c'est un comédien très très réputé. Et bien, quelques années avant que son frère n'assassine Lincoln, lui, il avait sauvé la vie du fils de Lincoln en l'empêchant d'être percuté par théâtre. Il y a quelque chose là-dedans, je trouve, d'extrêmement grandiose. C'est-à-dire, voilà, j'ai pris une vie, mais j'en avais sauvé une avant. Mon frère a pris la vie du président, mais
j'ai sauvé celle de son fils.
L'autre avait, voilà, exactement. Vous saviez, vous connaissez cette histoire?
Non, absolument pas. Mais vous savez, moi, je ne connais rien. Et ça se voit.
Non, mais bon, voilà, souvent. L'assassinat de Lincoln.
Et on peut voir tous ces objets, évidemment, il y a un culte.
Absolument. Oui. Tous ces musées, le Smithsonian, le musée bibliothèque du Congrès.
Oui, il y a un parcours, vous voyez, on va faire. Quand on pourra voyager, on fera le parcours.
Oh oui, Stéphane, s'il vous plaît, emmenez-moi.
Il y a des gens qui font la route 66, d'autres qui font la route de Lincoln.
Il y a des choses qui sont très flappy, comme le chapeau haute forme de Lincoln, qui vraiment appartient à l'image d'Épinal de ce président. Mmh. Il est complètement mangé par les mythes, grisouille, alors qu'on suppose que le soir où il est allé au théâtre avec, il devait être en bon état.
Merci beaucoup Clémentine.
Je me sens très très soucieux d'aller vite voir le chapeau de Lincoln.
On a très envie de faire la route Lincoln, la route 66, dès qu'on pourra voyager. Mais avant, nous allons voyager par la pensée, avec le quiz.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Question pour un champion restera un des jeux les plus célèbres de l'histoire de l'audiovisuel. Stéphane Bern, lui, a inventé un autre jeu. Question pour un champion à retardement. L'histoire d'un champion qui répond aux questions les plus complexes, sauf durant le quiz. Là, il perd ses moyens, c'est dommage. Aux autres moments de l'émission, je vous promets, il est sacrément fortiche, exemple hier.
Aïda, l'Égypte, la bégum à Gac en 3, Yvette Labrousse, Miss France 1930.
Si seulement il pouvait être aussi performant durant le quiz. Allez, essayons, jouons à Berne to Biel. Stéphane, êtes-vous prêt pour la première question?
Toujours prêt.
Toujours prêt. En Allemagne, bon nombre d'événements historiques se sont déroulés le même jour, mais pas la même année. Ainsi, l'abdication de l'empereur Guillaume II en 1918, le putsch manqué contre Hitler en 1923, la nuit de cristal en 1938, la chute du mur de Berlin en 1989 ont tous eu lieu en novembre et le même jour. Mais lequel? Il me fait son regard.
Le 9 novembre.
Je sais pas, vous avez dit 10 tout à l'heure.
Okay. Oui, parce que d'accord avec un moment, oui, mais la nuit de cristal, c'est le 9 novembre aussi.
Je ne peux pas vous aider, c'est une question.
9 novembre.
Vous dites le 9 novembre.
9 novembre, oui.
Vous avez gagné.
Et c'est une bonne réponse, Stéphane. Mmh. Bien joué, vous étiez parti sur 10.
Non, oui, parce que pour une question bête. C'est Guillaume II, en fait, qui m'a induit en erreur. Mais c'est vrai que j'étais en 89 pour la,
oui,
la chute du mur.
Pour Guillaume II. Non, vous étiez pour la chute du mur, 1989, oui, effectivement. C'était bien le 9 novembre. Les Allemands n'ont jamais pris cette date comme fête nationale, car il y a eu des jours heureux et des jours un peu moins heureux, on l'a entendu. La fête nationale, c'est le 3 octobre, date de la réunification en 1990. Question numéro 2. Pour vous, Clémentine Portier-Kaltenbach, on appelle Raj britannique la période durant laquelle le sous-continent indien a vécu sous le joug du régime colonial britannique, c'était de 1858 à 1947. Pour lutter contre la prolifération des rats, l'État britannique a nationalisé tous les éleveurs de cobras pendant 30 ans. Vrai ou faux?
Nationalisé? Comment ça nationaliser? C'est-à-dire qu'il est là, c'est lui qui les finançait, c'est lui qui les, non pas salariés, mais qui a créé un statut d'éleveur de cobras et qui finançait le salaire des éleveurs de cobras comme s'ils avaient été des fonctionnaires. C'est ça, nationaliser.
C'est exactement ça. Et ça, est-ce vrai ou est-ce faux?
De tous les éleveurs de cobras.
Qu'est-ce qu'il y a, Stéphane? Vous voulez participer au débat? Vous avez une idée?
Il n'aurait jamais pu. Non.
Pensez que c'est faux.
Oui, c'est faux.
Vous avez gagné.
Vous avez gagné. Votre jugeote est payante. En revanche, l'État britannique a voulu lutter contre la prolifération des cobras. Elle a donc offert de l'argent pour chaque cobra mort. Souci, des petits malins se sont mis à élever des cobras pour toucher la prime.
Ben oui.
Et quand les Anglais ont arrêté de payer la prime, ils ont tous relâché les cobras dans la nature. Aujourd'hui encore, on appelle effet cobra toute tentative de résolution d'un problème qui entraîne une aggravation du dit problème. C'est devenu une expression.
Ouais. C'est pas mal.
Question numéro 3 pour vous, Stéphane. Question préhistoire.
C'est la
période historique que vous connaissez le mieux. On ne peut pas changer. On me signale que c'est impossible. Préhistoire.
J'aime pas la préhistoire.
Si, Stéphane, si vous vous étiez baigné il y a 290 millions d'années.
Non, moi, j'étais pas en état.
Vous auriez pu tomber nez à nez avec un requin assez chelou. L'hélicoprion. Il avait 4 petites queues pour nager, qui tournaient très vite, un peu comme un hélicoptère pour le propulser. Vrai ou faux? Imaginez, vous nagez, il y a 290 millions d'années, vous êtes peinard, et tout à coup, un hélicoprion. Ça fait... J'ai tenté de limiter le bruit d'un hélicoptère.
Un hélico dans l'eau.
Et pourquoi
un hélico dans l'eau.
Pourquoi prion?
Je ne sais pas, je vous demande si c'est vrai ou faux, cet animal a existé ou pas. Est-ce que c'était un petit requin avec une propulsion de type hélicoïdal?
Non, écoutez, non. Ça, je suis sûr que ça existait, mais franchement, là, je trouve... Non, je dirais non.
Vous dites non, vous ne visualisez pas,
non,
ce requin.
Vous avez...
Vous avez gagné, Stéphane, votre connaissance de la préhistoire. Non. Je vais vous le dire, elle est sidérante. J'ai rarement rencontré
un spécialiste.
Yves Coppens, peut-être, mais sinon, j'ai jamais vu une telle culture. Par contre, l'hélicoprion a bien existé. C'est pour ça que je vous en parle. Sa particularité, c'est que sa mâchoire inférieure était de la forme d'une scie circulaire, un peu comme si ses dents inférieures étaient sur un disque vinyle vertical avec des dents dessus, si vous voulez visualiser. Ce requin faisait tout de même 13 mètres de long, donc mieux valait pas le croiser, hein, j'imagine. Ça devait faire mal, le disque rayé. Question numéro 4 pour vous, Clémentine Portier-Kaltenbach. Je m'adresse maintenant, encore une fois, à celle qui a écrit Les Secrets de Paris et qui a rédigé les questions sur Paris du Trivial Pursuit. Il y a dans la capitale, dans le 7e arrondissement, non loin de la Tour Eiffel, un immeuble dont la façade a été conçue par Jules Lavirotte, un des maîtres de ce qu'on appelle l'art nouveau. Une des particularités de la devanture, c'est qu'on peut y voir sculpté une douzaine de portes-jartelles. Vrai ou faux?
Écoutez...
Ça, vous connaissez.
Alors, ce que je connais, c'est, vous voyez, à l'église Saint-Germain-l'Auxerrois où était sonnée la Saint-Barthélemy, il y a des morceaux de poisson, des queues de poisson. Parce qu'en fait, il y avait un bon bourgeois du quartier qui s'appelait Tronçon.
Là, c'est pas du
tout. Quand on ne sait pas, elle arrive
Ce que je veux dire, c'est que si vous voulez, c'est la démonstration par l'exemple. C'est qu'à mon avis, si un certain Tronçon a pu mettre des queues de poisson sur Saint-Germain-l'Auxerrois, eh bien, votre monsieur, l'ambiote, la là, il a tout à fait pu mettre des portes-jartelles sur la dissimuler habilement dans les volutes de motifs floraux des portes-jartelles. Donc je dis oui. Ne connais pas la réponse à cette question, je dis oui.
Elle dit oui.
Vous avez perdu.
Elle a écrit les questions du Trivial Pursuit sur Paris. Les Secrets de Paris. Et pourtant, elle ne savait pas que Jules Lavirotte n'avait pas sur la façade d'un de ses immeubles, sculpter des portes-jartelles. Non, l'art nouveau, c'est l'esthétisme des courbes, effectivement. Il est né en réaction à l'industrialisation à outrance. Il a été prétendant, ce mouvement, à la fin du 19e, début 20e. Jules Lavirotte est la référence, vraiment, de l'architecture de l'art nouveau. Pas de portes-jartelles sur l'immeuble au 29 avenue Rapp. Non. Si vous trouvez là la réponse, je vous donne 2 points.
Pas de non, ni des seins, ni des corsets, ni des talons aiguilles. Non. Voyons les femmes de Mucha, qu'est-ce qu'elles ont? Elles ont des voiles, elles ont des...
Oubliez les femmes.
Des hommes.
Des pénis.
Un phallus, un point, la forme. Forme, effectivement, si vous vous baladez devant le 29 de l'avenue Rapp, vous verrez, un phallus n'est pas un phallus, c'est une porte. C'est ça aussi, l'art nouveau. Égalité, Stéphane, quel dommage.
Ça vous permet d'avoir cette dernière question. C'est
la
ça
victoire, vous tendez les bras.
La victoire en chantant. Mais la République nous appelle.
Oui, calmons-nous, Stéphane.
Un Français question. Doit vivre pour elle.
Qu'est-ce que j'aime, le chant du départ.
Moi aussi, le chant du départ, c'est magnifique.
Là, je pourrais vous enlever tous vos points.
Pour le chant du départ.
De nous avoir. Oui, salut les oreilles.
Vous savez que ça a failli être l'hymne national voulu par
Giscard d'Estaing. On en a parlé l'autre jour. Ouais, une question sur la lenteur. Oui,
et
bien sûr.
C'est dans le film La Victoire en chantant. C'est ce qu'on entend au début.
C'est une belle anecdote historique qui, hélas, ne rapporte pas de points puisque je n'avais pas posé de questions. Question numéro 5, c'est la question de rapidité. Vous écoutez mes propositions. On y va. Où se trouve la plus vieille église de France? Les historiens divergent, et ce n'est pas un gros mot. Est-ce l'abbaye de Saint-Pierre de Moissac dans le Tarn-et-Garonne? Est-ce l'église Saint-Pierre au Nonains à Metz? Nous n'allons pas trancher ici. La question est la suivante. Dans quelle région de France, avant la réforme des régions, y a-t-il le moins d'églises? 4 propositions. En Aquitaine, en Franche-Comté, dans les Pays de la Loire ou en Auvergne?
Moi, je dirais en Auvergne.
En Auvergne, ici.
Pays de la Loire.
Pays de la Loire à ma gauche. Une autre possibilité?
Franche-Comté.
Oh, Franche-Comté, victoire de Stéphane Bern.
Oui, il a fait le Tour de France. C'est du favoritisme.
Et absolument pas, il connaissait la réponse, c'est par pure politesse, par courtoisie, qui vous a laissé l'opportunité de répondre. Bravo Stéphane, vous êtes le meilleur, vous êtes le plus fort.
Non mais dis donc.
Vous êtes le soleil d'Europe 1.
Oh, en plus il rosit sous le compliment.
Mais il est vraiment... Ce qui est admirable, c'est qu'il arrive à être content même quand il vole une victoire. En Franche-Comté, seules 650 communes en France n'ont pas du tout d'église. La moitié de ces communes sont en Franche-Comté et c'est là où l'histoire du protestantisme est la plus forte.
Mais oui, Ville-Livre protestante où il y avait un simultanéum, vous savez, c'est-à-dire une église qui servait en même temps de lieu de culte.
Comme elle peut,
elle se rattrape, mais elle a perdu. Victoire de Stéphane, bravo.
<rire> 16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement vôtre, ce qui est ma foi rudement futé de votre part. En même temps, vous le savez désormais, vous vous êtes passé le mot. Chaque après-midi, s'il y a une émission où vous pouvez à la fois vous détendre, vous cultiver et vous marrer, c'est bien évidemment Stéphane.
Les grosses têtes.
Bah non, Historiquement vôtre. Enfin, réveillez-vous mon vieux. Une émission palpitante qui réunit chaque après-midi trois personnages assez différents mais avec un point commun.
Oui, aujourd'hui, trois personnes dont la tour Eiffel a changé la vie. Après Gustave Eiffel, qui a construit la célèbre tour, je vous présente un ingénieur, peut-être un peu moins rigoureux que lui dans ses calculs. Il s'appelle Franz Reichelt et au tournant du XXe siècle, il a voulu prouver que son prototype de combinaison volante fonctionnait.
Ça a marché ?
Bah, à votre avis, moyen, hein. Bon, je vais pas déflorer le suspense, mais vraiment moyen.
Ah,
moyen,
pas, moyen. N'ayez pas honte de votre personnage, Stéphane. Le mien est gratiné aussi aujourd'hui. Il s'agit d'une Américaine. Alors, la plupart des Américaines rêvent de se marier devant la Tour Eiffel, ce qui n'est déjà pas très fut-fut. Elle rêvait de se marier à la Tour Eiffel. Votre première réaction sera de vous dire qu'elle est tarée. Vous n'y êtes pas du tout. Elle est simplement objectophile. Elle fait partie de ces gens qui peuvent tomber amoureux d'un objet, voire de plusieurs objets. Je ne sais pas si les objectophiles sont polygames. Eux ne sont ni objectophiles, ni polygames, sauf David Castello-Lopez. Saluons nos chroniqueurs, Stéphane.
Oui, bah, lui aussi, il est un peu dingue. Hein. David Castello-Lopez, vous nous racontez les origines, le retour du Viandox.
Tout à fait. Hier, on a eu l'épisode 1 de la série sur le Viandox, hein, cette sauce, ce liquide alimentaire qu'on peut utiliser pour faire ses sauces ou même comme boisson. On a eu les origines et aujourd'hui, on va voir l'épisode 2 qui va s'attacher au futur du Viandox. Le futur du Viandox, parce qu'il y a un futur du Viandox.
À vos côtés, Olivier Pouls est prêt à nous parler d'une histoire gastronomique, celle du Fontainebleau.
Oui, et puis vous remarquerez que moi, je ne fais pas quatre feuilletons avec juste une recette. Voyez-vous, vous allez faire le Fontainebleau.
Toi, tu m'as déjà fait six fois l'histoire de la salade César. Si tu veux, alors, en termes d'arnaqueur, je pense que là, tu te poses là, mon grand.
Et alors, d'où vient la salade César? Vous en souvenez quand même, au moins? Je suis sûr que vous n'avez même pas retenu de qui a inventé la salade César.
Il l'a raconté tellement de fois que ça s'est rendu dans ma tête.
Un restaurant américain.
César Ritz.
Non, pas du tout.
C'est aux États-Unis,
c'est au Mexique, à Tijuana.
Oui.
Je crois que je vais la refaire d'ici la fin de la saison.
Probablement une cinquième fois, mais aujourd'hui, ça sera le Fontainebleau.
Fontainebleau, oui. Ce n'est pas qu'un château, Fontainebleau. C'est aussi une spécialité fromagère délicieuse.
Et puis Stéphane, vous aurez le mot de la fin, comme chaque jour. Vous décortiquez pour nous une expression.
Et se prendre une tôle. Oh. D'où ça vient le...
D'où ça vient, ça?
Oui. C'est comme se prendre un râteau, etc.
Ah, râteau, je comprends. On marche sur râteau, paf, il nous revient dans la gueule.
Oui, là, c'est
mais prendre une tôle, oui. Peut-être qu'elle tombe du ciel. Voyons. Mais d'abord, le poète disait I believe I can touch the sky. Lui aussi, il croyait qu'il pouvait voler et il s'était même tricoté à cet effet une sorte de pyjama volant. Au début du XXe siècle, l'inventeur Franz Reichelt s'était lancé du premier étage de la Tour Eiffel. A-t-il atterri comme prévu dans les jardins du Trocadéro? Stéphane Bern nous raconte l'histoire d'un des vols les plus brefs de l'histoire.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Franz Reichelt n'a pas volé. Pour preuve, son saut de l'ange a été filmé. 110 ans se sont écoulés et la vidéo est désormais visible sur Internet. Une image terrible quand on sait qu'au même instant, l'inventeur a fait un saut dont il ne s'est jamais relevé. Lorsqu'il naît le 16 octobre 1878, Heinrich Franz Reichelt est tout sauf destiné à sauter 30 ans plus tard au premier étage de la Tour Eiffel. D'une part, parce que il voit le jour à plus de 1000 km de Paris, avec Städel en Bohême, au sein de l'Empire austro-hongrois, la République tchèque actuelle. D'autre part, parce que, comme nous l'avons vu, la Dame de Fer sera, elle, érigée 10 ans plus tard, en 1889. Les raisons qui le poussent à venir s'installer en France alors qu'il n'a pas encore 20 ans sont assez floues. On sait simplement qu'il obtient la nationalité française en 1909 et pour s'intégrer au mieux, il francise ses prénoms. Heinrich Franz Reichelt devient Henri-François Reichelt. En s'installant à Paris, le jeune François a su tirer son épingle du jeu. Il devient tailleur pour dames. Reconnu pour son travail de qualité, il habite et exerce dans le très chic quartier de l'Opéra, au 8 rue Gaillon. À deux pas de la place Vendôme, il fabrique des tenues pour des clientes raffinées, principalement des Autrichiennes de passage dans la capitale française. En ce début du XXe siècle, qu'on appellera plus tard la Belle Époque, Paris est en pleine effervescence. 6 lignes de métro ont vu le jour en moins de 10 ans, les cabarets ne désemplissent pas, les progrès scientifiques et techniques, symboles de la seconde révolution industrielle, ne cessent de se multiplier. Et François est fasciné par cette ambiance bouillonnante. Un domaine particulier décolle depuis quelques années et l'attire plus que les autres, l'aviation. En 1903, les frères Wright réussissent à faire voler un avion motorisé. En 1909, Louis Blériot est le premier à traverser la Manche. Mais si certains pilotes courageux brillent par leurs exploits, nombreux sont ceux qui périssent lors d'accidents spectaculaires. François Reichelt veut absolument trouver le moyen de venir en aide à ses héros du ciel. Il est persuadé qu'avec ses connaissances en confection d'habits, il saura mettre au point un vêtement qui permettrait aux aviateurs de regagner sans danger la terre ferme en cas de chute. Dès 1910, cette passion vire à l'obsession. Reichelt travaille nuit et jour pour élaborer l'invention censée révolutionner le monde de l'aviation. Il s'inspire notamment de la physionomie des chauves-souris qu'il tente de reproduire. Il utilise de la toile caoutchoutée, une armature métallique. Mais le rendu final est bien trop lourd. L'attirail approcherait les 70 kilos. Autant vous dire que ça vous leste.
Oui, on arrive pas plus rapidement au sol. C'est
voilà. Le tailleur reconverti en inventeur n'a pas dit son dernier mot. Il parvient à agrandir le parachute à 12 mètres carrés et à abaisser son poids à 25 kilos. François fait des tests, d'abord avec des mannequins dans la cour de son immeuble. Les résultats sont peu concluants. Des journaux relatent qu'en 1911, il n'hésite pas à expérimenter en personne son costume parachute du côté de Joinville. Il aurait alors sauté d'environ 8 mètres. L'inventeur fou ne doit son salut qu'à de la paille qu'il avait pris soin de déposer sur le sol. Malgré ses tentatives plus proches du suicide que de l'exploit technique, Reichelt prend une décision aussi folle que fatale. Il compte bien prouver au monde que son invention est au point. Rendez-vous est donné à la presse le dimanche 4 février 1912. François Reichelt a rendez-vous avec l'histoire. Et avec la Tour Eiffel aussi. Depuis un an, François Reichelt envoie régulièrement des demandes officielles à la préfecture de police de Paris. Son objectif, tester son parachute accroché à un mannequin en l'élançant du premier étage de la Tour Eiffel.
Il n'est pas censé le sauter lui.
Son abnégation, Mathieu, finit par suspense. Payer. Il obtient enfin une réponse positive. Ce dimanche, donc, il est 7h du matin, lorsque François Reichelt fait son apparition au pied de la Dame de Fer. Malgré les températures négatives et un vent cinglant, quelques journalistes, des photographes et même des curieux ont répondu présents à l'appel. Physiquement, François Reichelt détonne. Coiffé d'une casquette d'époque, arborant fièrement une moustache épaisse, il s'est surtout affublé d'un costume insolite. Voici comment le décrit le journaliste du quotidien Le Gaulois. Une espèce de combinaison brune, un peu plus volumineuse qu'un vêtement ordinaire. La poitrine ressemblait au plastron bombé d'un escrimeur et sur les épaules, les ailes repliées de l'appareil semblaient de lourdes épaulettes qui ne détruisaient pas l'harmonie. La description ne laisse planer aucun doute. François Reichelt n'a nullement l'intention de se laisser voler la vedette par un vulgaire mannequin. C'est lui en personne qui s'élancera de la Tour Eiffel. Sur place, l'euphorie cède à la peur. Les hommes présents tentent de dissuader François. Il s'apprête à prendre des risques inconsidérés. Même l'aéronaute respecté, M. Hervieux, essaye par tous les moyens de lui faire entendre raison. La réponse de Reichelt est sans appel. « Vous allez voir comment mes 72 kilos et mon parachute vont donner à vos arguments le plus décisif des démentis. » Rien ne peut convaincre le tailleur de faire marche arrière. Pourtant, au moment de gravir l'imposant édifice de fer, le gardien lui barre la route. Anticipe-t-il un potentiel accident ? Après plusieurs minutes de tractation et un appel au gardien par ses supérieurs, la situation rentre finalement dans l'ordre. Accompagné de deux amis, François gravit les marches qui mènent au premier étage de la tour Eiffel. En chemin, il s'arrête et salue la foule, tenue suffisamment éloignée du lieu espéré de l'atterrissage. Enfin arrivé, François se hisse sur un tabouret, lui-même positionné sur une table. Toute la scène est filmée par un caméraman. Dans ce document, on voit l'apprenti parachutiste se préparer. L'homme prend le temps de jeter un papier pour déterminer la direction du vent. Mais au moment de s'élancer, François semble troublé. Pendant près de 40 secondes, il hésite, jauge la hauteur, s'approche du bord, recule, et enfin, à 8h22, dans un ultime,
Stéphane, vous êtes excité par la mort. C'est
non.
Quand même fou, mais si.
Là, je ménage le suspense
de
nos auditeurs.
On comprend bien ce qui va se passer, oui.
Et enfin, à 8h22,
oui.
Dans un ultime élan de courage,
mon Dieu,
ou de folie, il s'élance du ponton en fer.
Banzai.
57 mètres séparent le premier étage de la tour Eiffel du sol. La chute ne dure que quelques secondes. Très vite, la toile censée ralentir la descente de François s'enroule autour de son corps, l'empêchant définitivement d'imiter les ailes de la tant convoitée chauve-souris. François Reichelt s'écrase sur la terre gelée du Champ de Mars. Il est aussitôt transporté à l'hôpital Laennec, où le médecin ne pourra que constater sa mort. Il avait 33 ans.
Europe 1, historiquement vôtre.
Je ne sais pas quoi porter cette histoire, Stéphane. Pour continuer à parler de France Reichelt, nous sommes avec l'historien des sciences, Denis Gutleben. Bonjour, Denis.
Bonjour.
Bonjour, Denis Gutleben. Vous êtes historien des sciences au CNRS. Mmh. Vous êtes l'auteur de la fabuleuse histoire des inventions, de la maîtrise du feu à l'immortalité, paru chez Dunod. Des inventeurs fous, on en croise dans votre ouvrage avec l'homme-oiseau Franz Reichelt. C'est dû au vol, si j'ose dire. Mais qu'est-ce que vous inspire sa trajectoire, enfin, sa chute?
Cette trajectoire, elle inspire tout simplement le fait qu'il faut bosser les sciences quand même avant de se lancer dans les inventions. Ouais. Quoi. C'est quand même assez important. Enfin, il était tailleur, donc il s'est dit qu'il pouvait faire un beau costume, mais son costume, il le voulait volant. Ouais. Et du coup, ouais, il y a un certain nombre de considérations à prendre en compte, la portance, la traînée, le poids, etc. Et si on ne les connaît pas, si on n'a pas un peu bossé ses sciences, eh ben on finit comme il finit.
Ce qui paraît vraiment invraisemblable dans cette histoire, c'est qu'il n'a pas d'entourage, il n'y a personne qui lui explique ce que vous dites très simplement, c'est-à-dire qu'il faut quelques notions de physique pour éventuellement même concevoir un prototype, et puis il faut que ça ait marché une fois peut-être avec un mannequin. Ce qui paraît dingue, c'est par exemple qu'il avait prévu un mannequin.
Oui.
Alors pourquoi est-ce qu'il ne balance pas le mannequin d'abord pour voir ce que ça va donner avant de se lancer lui?
Mais il l'a fait chez lui et ça n'a pas marché.
Justement,
c'est là où ça devient d'autant plus absurde. Il l'a fait chez lui, mais je pense qu'il s'est peut-être lui-même mis une telle pression à en parler énormément autour de lui qu'à un moment donné, il s'est retrouvé face au mur, face au sol, on va dire, et il s'est lancé lui-même.
Ouais. Il n'y avait aucun moyen que ça marche, on est d'accord. On a éludé un peu la partie technique de son costume. Il n'y avait aucune chance que ça fonctionne.
Bah, ce costume-là en particulier, non, mais l'idée originale, elle est pas forcément mauvaise, parce qu'on fait voler des cerfs-volants depuis l'Antiquité. Léonard de Vinci a déjà imaginé ce que pouvait être un
volante,
parachute,
bien sûr,
les machines volantes. Et puis aujourd'hui, on utilise des wingsuits. Enfin, on utilise, je vous conseille quand même de le faire, c'est un petit peu dangereux.
Stéphane a essayé une fois, ça n'a pas très bien marché.
Ceci expliquant cela. Et du coup, l'idée n'est pas mauvaise. Simplement, lui a pas mis la conception qu'il fallait.
Ouais. Mais on est sûr qu'il ne voulait pas se suicider, le garçon.
Alors ça, c'est un secret qu'il a emmené certainement avec lui. Mais je pense que vraiment, il y a ce côté aussi, aller de plus en plus loin et finir par se convaincre soi-même. Ouais. En fait, cette image, moi, elle me fait penser un peu, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette séquence dans Le Dictateur de Chaplin, du fameux chapeau parachute. En fait, l'inventeur, là aussi, est persuadé que ça va marcher. Il se jette par la fenêtre et il meurt sous les yeux du dictateur. Bon, la différence, c'est que cette vidéo-là est plutôt rigolote dans Le Dictateur. Celle de Reichelt, elle est un peu glaçante parce qu'on la voit mourir en direct.
Vous pouvez le voir facilement sur Internet, mais c'est vrai que il y a une dimension comique, évidemment, mais il y a quand même la mort d'un homme, c'est absolument terrible, surtout qu'il hésite, effectivement, il hésite, et on comprend pourquoi, le pauvre, mais on se demande comment il peut être assez fou pour se jeter.
Oui, on se demande ce qui est passé dans sa tête. C'est vrai qu'il a tellement, il s'est mis lui-même cette pression, il en a tellement parlé qu'à la fin, c'est le saut.
Ça s'inscrit dans un contexte, en plus, du développement de l'aviation. On attend aussi la mise au point de tels dispositifs, et puis il va y avoir des récompenses à la clé. L'aéroclub mais d'autres institutions proposent des récompenses. Donc il y a peut-être une fortune à la clé aussi.
Alors justement,
la mort.
Faisons un petit point sur le contexte de l'époque, quand il se jette de la Tour Eiffel, on est en 1912. Quel dispositif existe pour faire voler un homme à l'époque?
Ah ben, il y a forcément, on est en pleine explosion de, si on peut dire, de l'aviation, mais il y a d'autres dispositifs qui existent déjà depuis
très longtemps. Mais il n'y a pas de deltaplane, il n'y a pas de parachute.
Non. Enfin, ça a été imaginé. Au final, comme je l'ai dit tout à l'heure, le cerf-volant existe depuis 2000 ans. On aurait très bien pu imaginer une aile beaucoup plus large pour porter un homme. Là, la question qui se pose vraiment à ce moment-là, c'est devant l'essor de l'aviation, finalement, les coucous qui volent à l'époque, ils sont pas non plus d'une sûreté absolue. Donc, on veut des dispositifs pour protéger les aviateurs et leur permettre de sauter quand il y a un problème technique.
Cela dit, c'était dangereux dans les airs, c'était dangereux en mer aussi. Hein, c'est l'année du Titanic. Hein,
tout à fait. Tout à fait. En fait, tout dépend du contexte dans lequel vous faites votre invention.
Mais c'est vrai qu'on avait une foi quand même insubmersible, si je puis dire, dans le progrès technique.
On a même forgé un mot pour qualifier ça à l'époque, ça s'appelait le scientisme. C'est qu'on croit vraiment que tout le progrès technique, scientifique, technologique va tout arranger. Et puis finalement, c'est pas vraiment le cas, comme le prouve le Titanic, comme le prouvera par la suite aussi la Première Guerre mondiale.
Mais ce qui est merveilleux, enfin, moi j'essaie de trouver une conclusion positive à cette histoire, c'est que la Tour Eiffel est le lieu de tous les fantasmes, en fait. Et je crois que ça a nourri aussi, sans doute, cet homme voulait... D'ailleurs, on le disait en début d'émission avec Christine Kerdelan, c'est-à-dire que la Tour Eiffel a été conçue aussi pour ça, pour tenter toutes sortes d'expériences.
Oui, tout à fait. Des expériences scientifiques encouragées par Eiffel, des expériences autour de la radio aussi, mais ce genre d'expérience, c'est quand même beaucoup plus dangereux. D'ailleurs, ça a été interdit pendant de longues années ensuite. Ça a fait jurisprudence, mais ça n'a pas empêché quand même certains inventeurs fous de se glisser entre les mailles du filet.
Vous savez combien il y a de suicides depuis la Tour Eiffel?
Non, ça j'avoue, non, je ne sais pas.
C'est une question qui vous excite, Stéphane. Hein, je sens que vous voulez savoir. Dès que c'est glauque,
non,
ça vous intéresse.
Mais pourquoi vous pensez ça?
Parce que je vous connais. Je commence à vous connaître.
Mais c'est vrai que la Tour Eiffel est le théâtre idéal de ses exploits. Est-ce que, par exemple, on a moins envie de se jeter du haut du Louvre, vous
voyez?
C'est
vrai, moi, par exemple, j'ai jamais eu envie.
Ou de l'Arc de Triomphe. Oui. Il faut voir, parce que tous les monuments parisiens où il y a des barrières de sécurité, c'est donc qu'il y a un jour des gens
qui ont
été tentés.
Oui, tout à fait. Mais il y a eu d'autres sauts suicidaires malgré, en effet, la jurisprudence dont on parlait. En 1928, on a un autre parachutiste qui s'est élancé de la Tour Eiffel, qui a fini comme... Et pourtant, lui, c'était un parachutiste chevronné. Il s'appelait Marcel Gaillet. Il s'est jeté dans le vide, mais il avait mal plié son parachute. Peut-être le stress aussi. Et il a fini...
Vous avez déjà fait des sauts en parachute?
Pardon?
Vous avez déjà sauté en parachute?
Non. Et après cette émission, je vais éviter, je pense.
Non, moi non plus. J'ai plus envie. Non.
Je sais quoi vous offrir pour vos 50 ans.
On a le temps.
Des inventions qui se retournent contre leurs inventeurs dans l'histoire des sciences, il y en a eu quelques-unes. Vous avez des exemples pour nous?
Oui, il y en a eu beaucoup. En fait, encore une fois, tout dépend du contexte. Par exemple, l'inventeur du clepsydre, si le clepsydre se retourne contre son inventeur, c'est pas très grave. Il risque d'arriver en retard à un rendez-vous. En revanche, l'inventeur du sous-marin, par exemple, c'est beaucoup plus dangereux. Et c'est un inventeur, il s'appelle Horace Hunley, un inventeur sudiste pendant la guerre de sécession qui met au point le sous-marin et qui meurt noyé pendant l'épronage d'un navire du Nord. Et en fait, il coule, le sous-marin coule avec le navire nordiste. Donc il y a beaucoup de cas comme ça. Oui.
Mais il y a Pilâtre de Rosiers aussi, l'inventeur de la montgolfière. On parle de l'aérien. Ça s'est mal passé
Il est mort. Mais ils avaient essayé d'abord avec des animaux, c'est ce que aurait peut-être pu faire aussi Reichelt.
Des moutons, je crois, moutons ou
chèvres. Souvent des moutons, pour une raison que je ne sais pas. Peut-être la portance du mouton est supérieure à celle de... d'autres animaux.
Ils avaient essayé, mais pour Pilâtre du Rosier, ça s'est mal fini aussi.
Oui, j'ai l'impression que ça se finit souvent mal quand même.
Il y a le montgolfier qui a réussi, la preuve, il a laissé son nom. Sinon, une montgolfière s'appellerait Rosière.
Et le monde serait très différent, Stéphane.
Tout à fait.
En tout cas, il nous reste à remercier Denis Gutleven.
Non, pas Denis, comme je l'ai appelé tout à l'heure.
Non, c'est pas grave.
Vous avez appelé Denis.
J'ai cru qu'on était aux États-Unis.
Denis Gutleven. Je rappelle le titre de son dernier ouvrage, La fabuleuse histoire des inventions, de la maîtrise du feu à l'immortalité, publié chez Duno, qui est à mettre entre toutes les mains, y compris ceux qui ont envie de tenter de nouvelles expériences.
Merci à vous.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Aujourd'hui, dans Historiquement Vôtre, on évoque ces personnages de l'histoire qui ont un lien particulier avec la Tour Eiffel. Je crois qu'on peut dire que ni François Reichelt ou Franz Reichelt, ni Gustave Eiffel lui-même n'ont eu un lieu aussi intime que notre troisième personnage du jour, Mathieu, parce que Erika Eiffel, comme son nom l'indique, s'est carrément mariée avec la Tour Eiffel. Hein. Pour l'occasion, votre portrait, là, on va pas mégoter, ça sera 100% vrai. Hein.
100% vrai, oui Stéphane, c'est la nature même de l'histoire que je vais vous raconter qui m'empêche aujourd'hui d'introduire 1% de faux. Vous allez voir, comme tout a l'air faux et que tout est pourtant vrai, je ne vais pas prendre le risque de vous induire en erreur. Direction donc la Tour Eiffel. Symbole de notre capitale, emblème mondial du romantisme, au pied de laquelle chaque jour, hors pandémie, et des couples touristes majoritairement chinois se font photographier en tenue de gala, cliché qui sera plus tard imprimé en sépia et placé dans un cadre Ikea sur un buffet en pain quelque part dans la banlieue de Shanghai. Vibrant témoignage d'un voyage de noces magique. En quoi se faire photographier dans une robe pronuptia qui menace à chaque instant de traîner dans une déjection canine ou du vomi de gilet jaune entre deux cahutes à crêpes et trois vendeurs à la sauvette de porte-clés Tour Eiffel Beat est-il magique ? Reste un mystère auquel, un jour, il faudra que les touristes chinois apportent une réponse. En attendant, si vous trouviez déjà too much ces couples de touristes qui se marient devant la Tour Eiffel, préparez-vous à réviser votre définition du too much. Je vous présente Erika Labrie, plus connue sous le nom d'Erika Eiffel, plus connue donc encore comme la meuf qui a épousé la Tour Eiffel. À votre mine stupéfaite, je sais ce que vous dites Stéphane. Comment peut-on en arriver à épouser la Tour Eiffel ? Pour se marier à une tour, il faut être...
rond comme une queue de pelle.
Oui, ou objectophile. Être objectophile, c'est ressentir une attirance pour un objet, qu'elle soit amoureuse ou sexuelle. C'est très sérieux. Prenez ce micro, par exemple, Stéphane. Je suis sûr que vous n'avez jamais pris la peine de le regarder. Mais regardez-le, sentez-le, humez-le. On dit que l'amour est souvent là sous notre nez. Alors ne soyons pas bêtement puritains. Osons nous poser la question, Stéphane.
Est-ce que ça nous excite ?
Vous, oui, à l'évidence. Moi, ça ne me fait rien. L'important, c'est que ça existe. Un spécialiste de l'objectophilie explique « Lorsque les gens sont privés de connexion avec d'autres êtres humains, attention, on pense au Covid, ils créent des connexions avec des non-humains par le biais de l'anthropomorphisme. » On comprend pourquoi, avec le confinement et l'interdiction désormais de déjeuner avec ses collègues à la cantine, certains êtres jadis normaux basculent dans l'objectophilie.
Ce qui est sexy, c'est le cordon bleu.
Attention Stéphane, on ne croque pas sans le consentement du cordon bleu. Rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. À la faveur des confinements, qui n'a pas commencé à regarder bizarrement sa multiprise ? Qui n'a pas eu un moment de rapprochement coupable avec son grille-pain ? Les experts nous le disent, avec l'objectophilie, les sentiments d'amour, d'attirance, d'excitation et d'engagement sont concentrés sur un objet particulier. Et la simple idée d'une relation avec un véritable humain paraît grotesque. Si ça se trouve, c'est pas eux qui sont fous Stéphane, c'est nous. Alors la prochaine fois que vous aurez une aventure avec votre imprimante, vivez-la à fond, sans tabou, sans retenue, à fond jusqu'au bourrage papier. Oh oui ! Oh, ma petite Samsung LP430FXWZ, tu permets que je t'appelle LP ? Tu m'excites. Oh oui, plus bas que... Oh, je vais venir, oh ! Oh, il n'y a plus de tonnerre ! C'est la troisième fois que tu me fais le coup de la panne. Mais je sens qu'à trop vouloir comprendre l'objectophilie, on perd de vue Erika, et c'est dommage. Erika est américaine. Elle est née en 72 dans le Maryland, elle a grandi dans des familles d'accueil, a été abusée par son demi-frère, et s'est très tôt intéressée aux arts martiaux. Très vite aussi, elle développe une attirance pour divers objets avec qui elle construit ce qu'on peut qualifier de relation. Erika raconte par exemple qu'à 14 ans, elle était déjà très amoureuse d'un pont de sa ville natale. Oui Stéphane, un pont. Ça pose d'ailleurs des questions sur le plan juridique. Un vieux pont peut-il sortir avec une jeune fille de 14 ans ? Ou bien y a-t-il détournement de mineur comme avec un vieux con ? Dans ce cas précis, la question ne se pose pas puisque le vieux pont a été plus raisonnable que Jean-Luc Lahaye. Il ne l'a pas touché. Après ses études, Erika suit une formation de météorologiste comme Evelyne Delia et de copilote sur avion de chasse F-15, pas comme Evelyne Delia. Avion de chasse avec lequel, vous l'imaginez, elle entretient un rapport amoureux. Sa carrière dans la Medler est hélas de courte durée car les cons étant plus nombreux que les ponts, elle y est victime de harcèlement sexuel. Elle s'exile alors au Japon, tout est vrai, hein. Elle devient une experte en arts martiaux. Après une brève idylle qu'on peut légitimement qualifier de plan cul avec son épée d'entraînement, Erika rencontre ensuite l'amour en la personne d'un narc japonais. Coup de foudre réciproque, puisque c'est avec ce nouveau partenaire qu'elle n'a jamais aucun mal à bander, qu'elle va atteindre les sommets du tir à l'arc international. Oui, c'est une championne de tir à l'arc, Erika. Le couple ira de compétition en compétition. Elle lui a même donné un nom, Lance. Lance m'a attiré parce qu'il était très beau. Notre relation a été chaude et intense pendant pas mal de temps, raconte Erika, encore émoustillée. Une question vous agite ? Comment sait-elle si elle est aimée en retour ? C'est très simple, nous explique Erika. La plupart des objectophiles ressentent les objets qu'ils aiment. Pour moi, la communication ne passe pas par la parole. Je capte les échanges d'énergie entre les objets dont je suis amoureuse et moi. En matière d'échange d'énergie, Erika ne va pas être déçue lors de sa première visite à Paris en 2004. Entre elle et la tour Eiffel, c'est le coup de foudre. Elle va revenir tous les ans pendant 4 ans. Elle câline ses piliers, rêve d'enrouler sa langue autour de ses antennes et de se frotter lascivement à ses boulons d'ancrage. Comment résister à plus de 300 mètres de fer pudelé? Justement, elle ne résiste pas et le 8 avril 2007, elle épouse la tour lors d'une cérémonie privée entourée de quelques amis. Avec mes proches, nous nous sommes réunis au deuxième étage. Un ami a lu mes vœux en français, puis j'ai récité un poème à la tour. C'était très émouvant de lui offrir mon cœur. Nous avons une connexion spéciale. Spéciale comme leur mariage, qui n'a aucune valeur juridique, évidemment. Aucun papier officiel n'a été signé. Pourtant, Erika a fait toutes les démarches pour porter le nom de sa moitié. Maintenant, c'est le nom qui est inscrit sur mon passeport et mon permis de conduire. La procédure est compliquée, ça m'a pris beaucoup de temps et coûté plusieurs centaines de dollars. Mais quand on aime, on ne compte pas. La voilà donc, Erika Eiffel. La suite de ses confidences est aussi dérangeante qu'un vie privée, vie publique avec José Dayan. Je cite « La tour Eiffel m'a permis de retrouver mon équilibre malgré le froid du métal. L'embrasser me réchauffe à l'intérieur. » Ok. Même si on ne veut pas forcément visualiser plus, on s'interroge « Comment tu vis une histoire d'amour avec un monument public ?» Eh bien, Erika nous l'explique. Quand elle lui rend visite, elle profite d'une poutrelle un peu à l'écart. Elle l'enfourche, je cite, « la frotte délicatement entre ses jambes tout en embrassant le métal glacé. » Est-elle seulement vaccinée contre le tétanos? Mes aïeux, quelle histoire! Je me sens choqué, c'est normal! Autour de cette table, à part David, personne n'a évidemment jamais essayé de s'accoupler avec la tour Eiffel en se frottant contre son pilier sud.
Bam, hein, c'est pas mal, hein?
Monsieur David! David, non. Bref, au-delà d'un acte d'amour, si Erika se frotte contre la tour Eiffel, c'est également un acte politique. En effet, de même que certains se battent pour faire reconnaître l'intolérance aux ondes comme une vraie pathologie, Erika, elle, se bat pour faire reconnaître la réalité de l'objectophilie. Elle a même créé un site internet pour partager et libérer la parole des gens comme elle. On peut y lire des témoignages émouvants, parmi lesquels celui d'Olivier P. de Paris, qui depuis 10 ans vit une aventure torride avec une carafe à décanter, et qui a peur d'être trahi par son état. Sa femme pense que c'est du calcaire, mais c'est pas du calcaire. Coquinou. Bon, le site internet ne croule pas sous les visites, mais l'histoire d'Erika la curiosité des médias. La chaîne britannique Channel 5 lui a consacré un documentaire qui, hélas, ne sera pas du goût d'Erika, qui lui reprochera d'avoir, je cite, « distillé de fausses idées selon lesquelles les personnes atteintes d'objectophilie le sont en raison de facteurs annexes tels que la maltraitance et la maladie mentale ». Non, tu crois? Pire, sa relation avec la tour Eiffel bat de l'aile. En effet, le personnel de la tour... Entre le personnel de la tour qui la reconnaît et l'empêche de se frotter et les mesures de sécurité qui s'intensifient d'année en année, pas facile de se caresser le boulon. En 2009, c'est la rupture. Les relations à distance, c'est pas simple et puis Erika l'avoue, elle a rencontré quelqu'un d'autre. Et pour lui, elle va quitter la Californie et s'installer en Allemagne car oui, Stéphane, Erika va vivre une relation avec le mur de Berlin.
Ah, c'est sympa ça aussi.
Oui, et chez les objectophiles aussi, l'amour n'a qu'un temps. Et aujourd'hui, Erika ne vit plus en Allemagne car elle est retombée profondément amoureuse d'une grue. Pour elle, elle a même changé une nouvelle fois de métier en devenant, oui, grutière. Je pensais que je ne retomberais plus jamais amoureuse, mais en tant que grutière, je suis connectée à mon amour. J'ai l'impression que les bâtiments que nous créons ensemble sont presque comme des enfants. Ouais, je sais pas vous, mais moi je regarderai plus jamais un objet de la même façon. Rien que demain matin au petit-déj, je sais pas si j'oserais introduire des toasts dans mon grille-pain. Je crois que j'aurais l'impression de tromper ma femme. Est-ce que toaster, c'est tromper?
Non, Mathieu.
Non, mais vous êtes un libertin, rien n'est jamais trompé. Mais je demanderai plutôt à Erika.
Merci Mathieu. Mais elle va bien sinon, votre
Écoutez, je crois
Erika...
qu'elle est à peu près... psychologiquement, je pense qu'elle est au niveau de Franz Reichel, si vous voulez. Je pense qu'elle est à peu près au même niveau.
Ouais,
c'est terrifiant parce que tout est vrai. À part
c'est
le fait que David s'est frotté à la tour Eiffel, évidemment.
Merci beaucoup, Mathieu.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Rarement épisode 2 aura été autant attendu par une nation, on peut le dire. Écoute Europe 1, c'est la deuxième partie de votre chronique, David, sur le viandeur.
J'espère que c'est la saison 1, il y aura une deuxième.
je vous ai parlé hier des origines du viandox qui découle d'une invention d'un chimiste allemand du 19e siècle et qui a été une des boissons les plus cool des 30 glorieuses avant d'être un petit peu ringardisée. Et aujourd'hui, je vous propose donc l'épisode 2 de ma série sur le viandox consacré au futur du viandox. Alors depuis que je suis européen, je remarque que le mot enquête est utilisé de façon, on pourrait dire, un petit peu libérale. Par exemple, sur Twitter, le CM d'Europe 1 poste mes chroniques, il écrit « Qui a inventé l'amiante? Pourquoi est-ce que c'est si mauvais pour la santé d'en sniffer ?» Notre journaliste David Cassiopès a enquêté. Voilà. Alors, il ne faut pas se leurrer, l'enquête le plus souvent, elle consiste à lire des articles sur Internet, éventuellement si on est chaud à lire un livre, et si on est vraiment très très chaud à appeler des gens au téléphone, on fait la synthèse de tout ça, et on rajoute des blagues. Donc c'est pas vraiment ce qu'on pourrait appeler de la chair à Pulitzer, vous voyez. Mais aujourd'hui, c'est une exception. Ah aujourd'hui, oui. Mathieu, pour le viandox, j'ai enquêté. Tout commence il y a 2 mois. J'ai acheté une bouteille de Viandox dans la perspective d'écrire cette chronique. Et là, Olivier Pouls a vu la bouteille sur mon bureau et il a dit « Oh là là, du Viandox, trop bien, je me souviens quand j'en buvais chez ma grand-mère ». Et tous les deux, à partir de ce moment-là, on s'est pris d'une passion pour le Viandox. Une passion renouvelée pour Pouls, une passion nouvelle pour moi. Chaque matin, vers 11h du matin, pendant plus d'un mois, on a mis quelques gouttes de Viandox dans un verre, on a rajouté de l'eau chaude et on s'est régalé comme 2 copains dans un bistrot sous Pompidou, vous voyez ? Mais un jour, Olivier Pouls, le détective du manger, a lu les ingrédients sur la bouteille, il a lu les ingrédients sur la bouteille à haute voix. Eau, sel, extrait de levure, arôme, colorant, sauce soja, exhausteur de goût, acidifiant, émulsifiant, diglycéride d'acide gras.
Oh non.
Et c'est tout. Aucune mention de viande dans la liste des ingrédients sur la bouteille de Viandox. Ce qui paraissait quand même incroyablement étrange. Alors je suis allé sur le site de Viandox, qui est produit aujourd'hui par la marque Knorr. Et là, surprise, dans la liste des ingrédients sur le site, c'était marqué en toutes lettres « extrait de viande de bœuf ». Mais what the fuck? What the fuck?
On nous ment.
Où était la vérité? Alors, en bon journaliste d'investigation, j'ai appelé le service client de Knorr.
Bonjour et bienvenue au service consommateur Knorr.
Voilà, comme souvent, on m'a fait écouter le canon de Pachelbel pendant quelques minutes.
Une excellente qualité sonore aussi.
Exactement, très très bonne qualité sonore. Et puis j'ai posé la question, bonjour madame, je voulais savoir s'il y a de la viande dans le Viandox ou pas, parce que c'est pas marqué sur la bouteille, c'est marqué sur le site. Et on m'a dit, on a bien reçu votre question, on reviendra vers vous. Personne n'est revenu vers moi. J'ai écrit 6 emails à des semaines d'intervalle, pas de réponse. Benjamin Delsol, le rédacteur en chef de l'émission, me disait, quand est-ce que tu la boucles ton enquête sur Viandox? Je veux des résultats, sinon on te met dans un charter pour le Portugal. C'est ça, il l'a dit. J'ai trouvé ça violent quand même, mais j'ai encaissé.
Et moi, je lui dis
comme dans les films de journalistes aux États-Unis, attends Benjamin, c'est pas mûr encore, laisse du temps à mon enquête. Et finalement, devant l'absence de réponse, j'ai décidé pour la première fois de ma vie d'employer les grands moyens. J'ai utilisé ma communauté de followers sur Instagram,
qui est riche,
ma commu de fololo, comme on dit parfois. Il y a à peu près 60 000 personnes qui me suivent.
C'est énorme.
C'est moins que Stéphane Bern, mais c'est quand même pas mal. Et j'ai posté une story qui posait une nouvelle fois la question, y a-t-il de la viande dans le Viandox, en taguant Knorr sur la story. Et le truc, c'est que mes fololos ont cru que je leur demandais d'interpeller Knorr individuellement. Et en quelques heures, le compte Instagram de Knorr a été inondé de gens qui posaient tous la même question. Est-ce qu'il y a de la viande dans le Viandox? Est-ce qu'il y a de la viande dans le Viandox? J'ai pris la peine de compter. J'ai compté. Il y a plus de 500 personnes qui ont écrit à Knorr sur cette question en me taguant moi aussi. Et la puissance du réseau a joué puisque le lendemain matin, Knorr France a posté une story qui donnait la réponse. Il n'y a officiellement plus de viande dans le Viandox. Il n'y a plus de viande dans le Viandox. Et ils disent que la viande a été remplacée par un arôme qui a le goût de la viande, mais qui est d'origine végétale. Aïe. Et on comprend un peu pourquoi ils ont mis du temps à répondre. Mais oui, je veux dire, parce que c'est quand même un petit peu rigolo qu'il n'y ait plus de viande dans le Viandox. C'est comme s'il n'y avait plus d'orange dans l'orangina et plus de chocolat dans les Chocapic. Vous voyez, c'est débile un peu. Et on se dit, peut-être que du coup, ça devrait cesser de s'appeler Viandox. Alors je leur ai demandé, mais pourquoi vous avez enlevé la viande du Viandox? C'est chelou quand même. Et ils m'ont dit, parce que ça fait partie de notre objectif, zéro déforestation. Et oui, il y a un lien entre la viande et la déforestation, puisque souvent pour élever des vaches, on coupe des arbres. Et que donc si on remplace la viande dans le Viandox par des plantes, eh ben on va sauver des arbres. Et puis bien sûr, on imagine que ça ne peut pas être mauvais, à une époque où le nombre de véganes augmente à vue d'œil, de trouver des solutions pour les attirer. Et donc c'est peut-être ça le futur du Viandox, c'est d'être le jus de viande des gens qui ne mangent pas de viande. Et d'ailleurs, ça pourrait être un slogan, vous voyez, comme Skyrock, les premiers sur le rap. Le Viandox, il n'y a plus de viande dedans. Pour finir, je vous ai apporté à chacun 2 verres de Viandox que vous avez devant vous. Parmi ces 2 verres, il y a un Viandox qui est de l'ancienne génération, avec donc, de la viande dedans.
Qui est donc périmé depuis 12 ans.
Qui est peut-être légèrement périmé, mais pas trop. Et un Viandox nouvelle génération, sans viande dedans. Et je vous propose que nous goûtions ces 2 verres successifs ensemble. Ils sont devant vous. Alors, et vous essayez de deviner dans lequel est-ce qu'il y a de la viande. Olivier Pouls a déjà commencé. Alors, on commence.
On commence, s'il vous plaît.
Vous avez commencé par lequel? Parce qu'il y en a un avec un post-it jaune dessus.
Oui, vous voulez qu'on boive celui-là?
Voilà, celui avec le post-it jaune d'abord. On y va?
Je l'ai bu, moi, déjà.
Oh, c'est ça n'a aucun goût.
Attends, on peut pas dire ça.
Vous avez le Covid? Oui, vite, un test antigénique pour Stéphane.
Et maintenant, s'il vous plaît, celui sans post-it.
Le premier, il y a de la viande, le deuxième, non.
Moi, je pense que c'est l'inverse.
Post-it, il y a de la viande.
Le post-it, non. C'est le jaune.
Le post-it, c'est le Veganox, là, le viandox sans viande. Mm-hmm. Et le sans post-it, c'est là où il y a de la viande.
Et vous pensez l'inverse, Olivier?
Non, moi, je pense que je suis d'accord avec Stéphane. Je pense que le sans post-it, il y a vraiment de la viande. Et l'autre, en fait, qui est plus puissant au goût, je pense qu'ils ont surjoué la viande, c'est ça. Et ça que donc, il n'y en a pas. C'est en vrai. Fait.
Excellente réponse de vous tous.
Moi, j'ai dit l'inverse.
Ah, vous avez dit meilleur avec de la viande. Merci. C'était meilleur avec de la viande.
Non, je trouve que c'est encore plus dégueulasse avec de la viande.
Et donc, vous voulez dire que, par exemple, Knorr, dont j'achète, par exemple, les cubes de... Il n'y a pas de viande non plus.
Je n'ai pas...
Deuxième campagne, trois Instagram abonnés.
Et un troisième épisode peut-être sur les différentes les exaltations de
Knorr. Je pense que dans le cube de Knorr, il reste de la viande, parce que là, sinon vraiment... D'autant que
tout est
c'est
perdu.
Marqué poule au pot.
Je savais bien qu'il n'y avait plus rien.
On ne peut pas l'imaginer, sinon tout fout le camp. Olivier, heureusement, vous arrivez... Déjà, on retrouve la chronique, l'enquête en deux parties sur le site internet d'Europe 1, évidemment de David sur le Viandox. Et puis là, on va se rincer la bouche, si je veux dire, un petit peu avec un vrai bon plat, Fontainebleau.
Spécialité fromagère, vous connaissez tous la ville de Fontainebleau et le château de Fontainebleau, à peu près à 70 km de Paris. Ça vaut le détour, non Stéphane?
Magnifique château. Hein. Surtout en cette année du bicentenaire de la mort de Napoléon. Voilà. Il faut y aller.
Eh bien, il faut y aller aussi pour déguster un Fontainebleau. Alors, pas de grande surprise, c'est bien dans cette ville qu'est né le Fontainebleau. Donc, je vous l'ai dit, spécialité fromagère. Et elle serait née au XVIIIe siècle, un peu par hasard. On ne connaît pas exactement le nom de celui qui l'a inventé, mais en tout cas, c'est un crémier de la Grand-Rue qui avait constaté, parce qu'à l'époque, quand on transportait le lait entier dans les récipients, on les transportait dans des carrioles, et quelles carrioles roulaient sur des pavés, donc ça chahutait. Et après avoir fait des longues tournées, quand il rentrait, le lait avait été violemment secoué et se formait par-dessus une écume qui était constituée par de la crème qui avait été fortement mélangée, fortement agitée. Et c'était délicieux. C'était très aérien.
C'est juste ça, le Fontainebleau?
Alors, à l'origine, c'est ça. Et donc, lui a eu l'idée de foisonner de la crème, c'est-à-dire de lui incorporer de l'air, de manière à rendre cette crème beaucoup plus aérienne et beaucoup plus légère. Alors, vous allez me dire, ça me fait penser à un truc, c'est la chantilly, en fait. Oui. Alors, la différence, c'est que la chantilly, elle est sucrée, alors que le Fontainebleau ne l'est pas. Mais sur le Fontainebleau, il y a un débat et des discussions. Et je dirais même qu'il y a plusieurs écoles de Fontainebleau. Il y a l'école, très traditionnelle, qui consiste à penser que dans le Fontainebleau, il n'y aurait que de la crème. Et certains, notamment à Fontainebleau, continuent à l'élaborer comme ça, avec en plus une petite touche dont ils ne veulent pas révéler le secret. Il y a une autre école, qui est celle du célèbre fromager Barthélémy, qui lui mélange de la crème avec du fromage frais, type faisselle. Alors ça donne quelque chose d'un petit peu moins gras quand même, parce que s'il n'y avait que de la crème, c'est quand même un peu consistant. Et il y a un mystère qui subsiste sur la présence ou non dans la première version, et ça pourrait être le secret, de blanc d'œuf monté en neige. Ce qui serait là le vrai secret du côté très aérien d'un Fontainebleau réussi. En tout cas, si vous voulez réaliser un Fontainebleau chez vous, c'est pas très compliqué, vous achetez de la crème liquide, 200 grammes. Moi, je suis partisan d'y ajouter du fromage blanc type faisselle, parce que ça donne quand même quelque chose d'un petit peu moins lourd. Vous allez monter la crème liquide dans le bol d'un robot. Vous rajoutez ensuite le fromage blanc. Vous continuez bien mélanger, de manière à avoir quelque chose de très aérien. Et puis, si vous voulez en faire un dessert, et c'est quand même à ça que ça sert en général.
Des fruits rouges dedans.
On rajoute un tout petit peu de sucre et on rajoute des fruits. Et ça, c'est un dessert du coup assez léger, vraiment facile et délicieux. Il y en a même qui rajoutent du chocolat. On peut imaginer mettre un tout petit peu de chocolat à la place des fruits, pour faire un Fontainebleau goût chocolat. Voilà.
N'exagérons pas.
Mais donc au départ, le dessert, c'est juste cette crème-là.
Au départ, c'est du
Fontainebleau presque.
Voilà. Oui. Mais inventé en fait totalement par hasard par le fait que le fromage il se secouait, notamment quand il venait de Fontainebleau à Paris. Quand il arrivait à Paris,
il était Fontainebleau.
Le Fontainebleau, c'est délicieux et vous pouvez croire sur parole puisque c'est un homme qui vient de se taper deux verres de Viandox qui vous le dit. Merci Olivier.
C'est un avantage de Viandox, c'est un coupe-faim radical. Hein.
Mais moi, je voulais vous dire ça, excusez-moi, mais pour moi, le Viandox, un jour j'en ai bu un verre entier, c'est une des rares fois de ma vie où j'étais capable de sauter un repas derrière tellement j'avais pas faim. Il devrait tout marketer sur le fait que c'est la boisson du sportif.
Exactement.
c'est mon idée, je le revends comme ça, c'est gratuit. Merci beaucoup Olivier, on retrouve toutes vos recettes sur le site europe1.fr et tout de suite, on retrouve le mot de la fin avec Stéphane Bern. Se prendre une tôle, d'où vient cette expression ?
Oui, se prendre une tôle. Mathieu, à ce stade de l'émission, ayons une pensée aimable pour Clémentine Portier-Kaltenbach, qui, à cause du quiz où elle a le malheur de s'être opposée à moi, se prend maintenant régulièrement des tôles.
Oh,
se prendre une tôle, d'où vient... Elle n'est pas là.
Mesquin, en plus. Surtout qu'elle n'est pas là.
Oui, ouais. Bah oui, c'est plus drôle.
Bien sûr.
Se prendre une tôle, d'où vient l'expression ? Bah oui, et bah, vous me posez la question. Eh bien,
je vous pose
c'est
la question, Stéphane.
Oui, se prendre une tôle, est-ce que c'est un rapport avec la tôle en acier, oui. la tôle prison ondulée.
Ah oui,
la tôle.
La prison,
ah, oui, on peut, oui. Bon, si vous me permettez l'expression, vous avez mis le doigt dessus. La tôle, T-O, accent circonflexe, L-E, c'est la tôle d'acier, la feuille d'acier. D'où ça vient ? Eh bien, en gascon, la table se disait tôle, et en vieux picard aussi d'ailleurs. La tôle, T-A-U-L-E, c'est la chambre ou la prison, ce qui pour certains ados est à peu près la même chose. Au XVIe siècle, les deux orthographes se confondent et la tôle, T-A-U-L-E, désignera aussi la maison de tolérance. Ça donnera également le taulier, un surnom qu'on donnera à Johnny Hallyday, qui avait un lien particulier avec les portes du pénitencier. Les lexicographes vont avancer l'idée un peu facilement, peut-être que la prison est souvent entourée de tôles d'acier, ceci expliquant alors cela. Mais d'où vient quand même l'expression « se prendre une tôle » ? Eh bien, imaginez-vous, contre toute attente, ça vient du ski.
Hein ?
Quand la neige durcit après un début de fonte, puis qu'elle regèle, on parle de neige tôlée. Et je ne sais pas si vous maîtrisez le planté de bâton, mais la neige tôlée est particulièrement glissante et dure. Ce qui fait que non seulement on tombe plus souvent, mais en plus la douleur fait que... À la longue, on s'en souvient vraiment de façon plus vive. Alors, quelle que soit la tôle que vous prenez, T-O accent circonflexe L-E ou T-A-U-L-E, souvenez-vous de ce bon mot signé Coluche. Pour la politique, les Russes sont très forts. Un homme de fer à la tête et tous les autres en tôle... On peut pas dire que ça ait beaucoup changé.
Historiquement vôtre, les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Beaucoup de tôle, beaucoup de ferraille dans cette émission.
Oui.
Une émission
spéciale,
effectivement. Nous l'avons consacrée à ces hommes et ces femmes qui ont eu une relation particulière, parfois très particulière, parfois même érotique, avec la Tour Eiffel. Quelle histoire vous a le plus ému, Stéphane ? Celle de Gustave Eiffel, celle de Erika Eiffel, ou bien celle de Franz Reschet, le tailleur autrichien qui finit en schnitzel au pied de la célèbre tour.
Écoutez,
c'est déjà qu'il a fini.
Non, j'étais très mal à l'aise par votre histoire d'Erika. Erika Eiffel.
Se
frotter la Tour Eiffel et épouser des objets.
Je voulais bien être ouvert d'esprit, mais ça va trop loin.
Oui, non, j'ai bien aimé François Reschelt faire tout ce chemin depuis la Bohème, devenir tailleur pour dames et finir en crêpe. Oui, c'est.
Oh, c'est terrible, mais j'ai senti que ça vous a épuisé cette histoire. Que nous réserve le programme de demain ?
Eh bien, demain, voyez-vous, mon cher Mathieu, on réunit des reines sans couronne. Celle qui a régné sans en avoir le titre, Louise de Savoie, la maman du roi François Ier, qui était là, qui tirait les ficelles dans l'ombre. Lady Hester Stanhope, une aristocrate anglaise devenue reine de Palmyre.
Et puis plus proche de nous, Beyoncé, Queen Bee, pour les intimes, la reine du R&B. J'espère, Stéphane, que vous êtes prêt à boutichéquer.
Oh, toujours prêt, Mathieu. À demain.
À demain, Stéphane. À demain, les amis.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.